19h04 minutes. Merci d'être avec nous aux amateurs de sport. Juste pour vous mentionner deux choses. La première, les Blue Jays de Toronto ont reçu l'approbation pour retourner à Toronto au Rogers Center à compter du 30 juillet prochain. Donc, ça vient de tomber voilà quelques instants. Ça, c'est numéro un. Numéro deux. Préparez-vous parce que après la chronique, après l'entretien que nous aurons dans quelques instants avec Philippe Quentin, où je poserai la première question suivante, parce que faites attention, c'est la question que je vous demanderai. On fera un blitz d'appel. Nous sommes à 7 jours de l'ouverture des Jeux olympiques. Sentez-vous la flamme olympique? Avez-vous le feu sacré olympique? Est-ce qu'il y a de l'effervescence? C'est ce que je vous demanderai un petit peu plus tard, là, aux alentours de 19h20. Je vous poserai cette question-là. Donc, soyez prêts. Et j'accueille Philippe Quentin qui est avec nous. Salut Philippe!
Salut Jérémy!
Bon, là je t'ai brûlé le punch, mais tu connais ta première question. À 7 jours de l'ouverture des Jeux olympiques, est-ce que tu sens l'effervescence de ce grand événement?
Non, pas du tout, pas pour l'instant. J'espère que ça va venir dans les prochains jours, Jérémy. Mais tu sais, à l'heure actuelle, il y a tellement de questions qui demeurent à propos de la tenue de ces Jeux olympiques-là. Là, on le sait, les Jeux auront lieu. Mais la question demeure, est-ce qu'ils devraient avoir lieu? Et là, je lis des articles en provenance du Japon. Les cas de COVID sont nombreux au Japon. On atteint des sommets à Tokyo même depuis 6 mois, au-delà de 1300 nouveaux cas aujourd'hui. Des histoires à faire dresser les cheveux sur la tête là, dans un hôtel où il y a des judokas du Brésil. Ben, ils sont tous en isolement, pas parce qu'eux ont testé positif, mais parce que du personnel de l'hôtel a testé positif. Alors, peut-être que les judokas qui achevaient leur camp d'entraînement là, avant de participer au jeu, peut-être qu'ils ont été en contact avec du personnel, donc là, il faut qu'ils soient en isolement. Et puis là, on explique les règles. Écoute, les règles, c'est ahurissant. Les athlètes, pour leur petit déjeuner le matin dans un des hôtels, il faut qu'ils aient déjeuné avant 6h30 le matin pour être sûr de ne pas rencontrer personne. Puis si c'est pas, s'ils veulent déjeuner plus tard, ben c'est service aux chambres. C'est anecdotique, c'est une anecdote, mais ça semble se multiplier. Et là, les Jeux ne sont même pas encore commencés. Alors, tu te demandes un peu dans quel contexte. T'sais, les Jeux olympiques, là, c'est supposé être une fête. Et là, la fête n'est pas au rendez-vous.
Non, la fête n'est pas au rendez-vous. Et moi, je me questionne comment les athlètes vont faire pour performer à travers tout ça. Être en mesure d'aller chercher la concentration totale qu'on a besoin. Pas de spectateurs dans les estrades parce que veux pas, ça amène l'émotion nécessaire pour te défoncer pour aller plus loin. Puis deuxièmement, quand t'es pris à chaque jour avec des consignes extrêmement sévères, quand tu sais qu'il y a un danger qui est là, parce que l'état d'urgence est là du côté de Tokyo, et quand tu sais que le danger est là pour vrai, comment t'arrives à performer dans ces temps-là?
Ben, ça va être très difficile, hein. Il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Et non seulement ça, c'est que la préparation de la plupart des athlètes n'aura pas été optimale parce qu'il n'y a pas eu les compétitions internationales. En tout cas, elles n'ont pas été tenues aux dates prévues. Ça n'a pas été le calendrier normal. Même les sélections des athlètes pour chaque compétition, ça s'est déroulé de façon un peu quinca dans différents pays. Alors même la préparation est pas la même. Là. Prenons par exemple la délégation canadienne. Qui va arriver à Tokyo puis qui va compétitionner à côté du week-end prochain, la façon dont ces athlètes-là se sont préparés, ça n'a aucun rapport avec les Jeux précédents à Rio en 2016. Il y avait toutes sortes de consignes. Ils ne pouvaient pas aller à l'étranger. Ils pouvaient aller à l'étranger. Ils revenaient, il fallait qu'ils soient en isolement. Pour l'entraînement, c'était compliqué dans les centres d'excellence. Et ça a été franchement assez bordélique là, comme environnement. Alors, la préparation n'est pas la même. Il va manquer plusieurs athlètes. On le sait, notamment dans les athlètes professionnels qui font beaucoup d'argent. Il y en a beaucoup qui ont fait l'impasse sur les Jeux olympiques, en tennis notamment, en golf aussi. Et puis les autres, eh bien, il va falloir vraiment qu'ils cherchent ça au fond d'eux-mêmes parce que ça va être très dur. Tu le mentionnes, Jérémy, des Jeux olympiques sans spectateurs. C'est très difficile à imaginer. Je le disais tantôt, c'est une fête, les Jeux olympiques. Il y a une ambiance extraordinaire. C'est survolté très souvent. On pense parfois qu'une compétition olympique, c'est un peu feutré parce que, tu sais, c'est l'olympisme et tout. Pas du tout. C'est la musique au bout, puis il y a de l'action, puis des animateurs de foule. Puis, tu sais, c'est le fun. C'est un grand party.
Il semblerait qu'on va ajouter des bruits de foule.
Ouais,
ce qu'on va faire, là, ce qu'on a connu avec le hockey, en quelque part. Moi, je l'ai vécu cette année du côté du Centre Bell. C'était pas sublime. C'était pas sublime. Là.
Ça vaut ce que ça vaut. Hein? C'est
peut-être
sûr
pour
que...
la télévision, oui, mais sur place, là, c'était ordinaire un peu.
Oui, mais les athlètes, eux, qui carburent à ce contact-là avec le public, c'est dur. Puis moi, ce que je trouve encore plus difficile, tu sais, il faut pas se le cacher, il y a beaucoup des sports qui sont aux Jeux olympiques qu'on ne suit là, pour la majorité d'entre nous que durant les Jeux olympiques. Alors, pour ces athlètes-là, c'est leur occasion à tous les 4 ans de performer devant beaucoup de monde. Devant beaucoup de monde dans le stade, puis devant beaucoup de monde à la télévision. Ce qui n'arrive pas là, dans les 4 années qui ont précédé, puis dans les 4 années qui vont suivre avant le prochain rendez-vous olympique. Alors, tous ces athlètes-là perdent ce moment-là là, de briller devant un stade plein, peu importe la compétition, que ce soit en badminton devant 5000 personnes, en judo devant 3000 personnes, même en athlétisme, tu sais, les compétitions d'athlétisme, là, on veut pas dire que les stades sont remplis pour observer ça. Alors, c'est tous ces athlètes-là manquent ce moment-là. Et ça, je trouve ça dommage parce que les Jeux, c'est pas comme un championnat mondial qui revient chaque année, là. C'est une fois aux 4 ans. Et là, ben, ça va être manqué. Alors, tu sais, pour revenir à ta question initiale, est-ce que quand ça va commencer, est-ce qu'on va sentir tout à coup une fébrilité? Je le sais pas, je le souhaite parce que c'est toujours un grand moment pour les Jeux olympiques, mais là, je regarde les nouvelles qui sont en provenance de Tokyo, puis on parle pas de sport, on parle pas d'olympisme, là, on parle uniquement de COVID.
Bon, ben écoute, je rappelle aux gens, là, à la fin de notre conversation, j'ouvrirai les lignes, on va faire un blitz d'appel. Moi, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui vont dire non, je ne suis pas trop embarqué là-dedans. Mais j'espère, je souhaite que on... Je trouve qu'on a une responsabilité, nous, en tant qu'amateurs de sport. Ouais. On a une responsabilité d'embarquer là-dedans et d'écouter ça et d'apprécier ce que plein de Québécois, plein de Canadiens vont faire là-bas, nonobstant les circonstances. Je pense qu'on a une job à faire, moi, Philippe.
Oui, écoute, c'est un argument qui se défend très bien. Mais, tu sais, il y a la réalité qui risque de se buter à ça aussi. Mais moi, je pense que pour que s'allume une flamme, une flamme olympique, disons, au Québec, au Canada, il va falloir qu'il se produise quelque chose, soit une belle performance d'un athlète québécois au début des Jeux, tu sais, ou quelque chose d'hors de l'ordinaire qui va vraiment attirer l'attention. Ça peut arriver parce que les Jeux nous proposent tout le temps des histoires absolument extraordinaires. Mais tu sais, c'est sûr que si on parle seulement de la COVID jusqu'à pour les 7 premiers jours des Jeux olympiques, ça sera pas extraordinaire. Alors, on verra. Moi, je ne demande que ça, Jérémy. Je ne demande qu'à être ébloui par les performances des athlètes. Mais là, à l'heure actuelle, je réponds très franchement à ta question. Puis tu sais combien j'aime ça, les Jeux olympiques. Cette effervescence-là, je ne la sens pas. Dans mon milieu, j'ai posé la question ces derniers temps, dans ma famille, des amis. Et puis, c'est pas là à l'heure actuelle. C'est pas là du tout.
On verra ce que les auditeurs en penseront un petit peu plus tard. Maintenant, écoute, Philippe, si on se parle, on est obligé de se parler un petit peu de hockey, là.
Ben oui.
Hey, chez Weber, mon Dieu. As-tu été surpris par cette nouvelle-là?
Oui, c'est sûr, parce que la nouvelle semble assez catastrophique, là. T'sais, on verra bien comment tout ça va se décliner, mais si c'est vrai que sa carrière est compromise, c'est grave, là, parce qu'il lui reste encore, 5 années de contrat, puis je pense que personne n'imagine qu'il peut performer à un très haut niveau pendant encore 5 ans, mais il peut certainement donner un coup de main aux Canadiens pendant encore 2 ou 3 ans s'il est en santé. Alors, si c'est pas le cas, puis si il est obligé véritablement d'accrocher ses patins, mais moi, je mets un bémol là-dessus. Là. On connaît Weber, puis c'est sûr qu'il veut certainement pas terminer sa carrière comme ça. Mais même à cet âge-là, s'il doit effectivement rater une saison, tu sais, c'est une chose de rater une saison quand tu as 23 ans, ça en est une chose de rater une saison quand tu as 35 ans. Alors, mais bon, regarde, tu sais jamais, Markov est revenu après avoir manqué un an, puis il était tout aussi vieux là, dans l'âge du hockey. Mais oui, ça m'a étonné, puis je pense que ça explique un peu sa réaction assez émotive après l'échec du Canadien en finale de la Coupe Stanley. Je pense que lui, bon, on le savait là, que le Canadien se rende en finale, c'était inespéré et inattendu. Réaliser ça une autre année d'ici 2 ou 3 ans, pas impossible, mais bon, c'est quand même un sacré défi. Alors lui, il savait là, que c'était cette année sa chance, c'était cette année la chance pour Carey Price aussi. Je pense qu'ils y ont cru vraiment. Et puis quand ils ont réalisé que que le Lightning était juste trop fort, ça a été très très dur à encaisser. Mais tu sais, c'est sûr que ça va être un coup dur pour le Canadien si ça se confirme.
Bon, moi, je sais pas si je suis une personne trop positive, mais il y a un petit côté positif que je vois à ça. Je t'explique. D'un côté, chez Weber, prend du temps pour se reposer, peut peut-être revenir après la saison, ou du moins peut-être en série de fin de saison, si le Canadien atteint les séries de fin de saison.
Et... Le scénario Kucherov.
Ben voilà, on fait un scénario Kucherov. On s'entend pour dire que c'est pas le même punch à l'attaque, mais au moins, ça améliore ta brigade défensive. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, si ce n'est pas le cas, ça donnera honnêtement une marge de manœuvre d'un point de vue financier aux Canadiens. Tu sais, c'est 7 millions qui seront sur la liste des blessés à long terme. Là, tu peux peut-être manœuvrer davantage. Tu as Jonathan Drouin qui est là également. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu peux peut-être encore une fois aller chercher davantage de ressources financières pour être en mesure peut-être de rajeunir cette brigade défensive, mais d'amener quelqu'un qui est capable de prendre ses 23-24 minutes de jeu. T'sais, on parle d'un Seth Jones, un Dougie Hamilton. Dougie Hamilton, pas la même chose défensivement, et Benoît Brunet nous en parlait. Mais clairement, tu as l'opportunité pour Marc Bergevin de faire quelque chose.
Ben, c'est sûr, puis c'est la seule façon dont lui doit analyser ça. Là. Il peut pas s'apitoyer sur son sort. Bon, c'est sûr que pour lui, il le dit souvent que l'acquisition de Weber, ça a été un de ses plus grands coups, sinon son plus grand coup depuis qu'il est directeur général du Canadien. Tu me permettra personnellement d'exprimer des réserves là-dessus. Là. Je rappelle que Weber, avant cette année, là, le Canadien n'a pas eu beaucoup de succès avec Weber dans la formation. Je ne lui impute pas le blâme, mais tu sais, même avec Weber, il y a eu des problèmes, la fameuse année du problème d'attitude du Canadien. Le Canadien a fini 24e au classement général avec Weber la saison dernière, 18e cette saison. Dans les deux cas, le fait que la pandémie modifie le fonctionnement des séries éliminatoires permet aux Canadiens de se faufiler, alors que le Canadien n'aurait pas dû participer aux séries, je pense, dans ces deux années-là. Alors, tu sais, bon, l'acquisition de Weber qui a transformé le Canadien, moi, j'en prends puis j'en laisse beaucoup.
Philippe, attends une petite minute. Avant de dire que c'est la pandémie qui a modifié le calendrier, la possibilité du Canadien de faire les séries, disons un gros merci aux sénateurs d'Ottawa qui ont connu un mauvais début de saison. Ouais. Gros merci aux Oilers d'Edmonton qui ont été ordinaires. Gros merci aux Flames de Calgary qui ont été ordinaires. Gros merci aux Canucks de Vancouver qui ont été ordinaires également. Je pense que c'est pas mal plus eux qui ont donné l'opportunité aux Canadiens de se placer en série de fin de saison.
Ben, c'est une combinaison de facteurs, hein. C'est sûr que c'est une combinaison de facteurs, mais si tu mets la division de l'an dernier cette année, là, cette saison, si le Canadien avait été en lice avec le Lightning, puis les Panthers, puis les Bruins, puis tout ça, je pense que ça aurait été très, très, très difficile de participer aux séries. Cette année, le Canadien en a profité. Tu as raison, mais d'un autre côté, tu joues, c'est comme aux cartes, là. Tu joues avec les cartes qui te sont données. Puis le Canadien avait peut-être pas les meilleures cartes, mais oups, ils ont bien joué ça, puis ils se sont rendus loin. Alors, bravo, moi, j'ai toujours dit, Jérémy, si je ne l'ai pas répété 50 000 fois, je ne l'ai pas dit une fois, tu sais, c'est une business de résultats. Le Canadien a eu des résultats cette année, des résultats qui étaient au-delà des espérances, alors bravo. Mais, tu sais, pour revenir à Weber, tu sais, est-ce que Weber est le gars qui a transformé le Canadien? Non, à mon avis, non. Je pense qu'encore une fois, si cette saison-ci a prouvé une chose, et si les séries éliminatoires ont prouvé une chose, c'est qu'il y a un joueur dans cette équipe-là qui est déterminant. S'il joue bien, le Canadien peut avoir du succès, n'a pas nécessairement du succès, mais peut avoir du succès. Puis s'il ne joue pas bien, le Canadien n'a pas de succès. Puis ce joueur-là, on sait tous c'est qui, c'est le gardien de but. Si Price n'avait pas été magnifique contre les Maple Leafs de Toronto, si Price ne se lève pas pour dire quand le Canadien tirait de l'arrière contre les Maple Leafs, moi j'ai encore confiance en ces joueurs-là, en mon équipe, on est capable de marquer des buts, on est capable de revenir et tout. T'sais. Pour moi, ça, lui, s'est comporté avec beaucoup, beaucoup de leadership. Tu as vu encore une fois, c'est quoi un leader? Des fois, c'est presque trop. Parce qu'après la défaite contre le Lightning de Tampa Bay, il se fait poser la question, tu sais, qu'est-ce qui explique la défaite? Puis il dit, ben, c'est moi qui n'ai pas assez bien gardé les buts. T'sais, il prend encore sur lui. T'sais, il en prend beaucoup sur lui, mais des fois, il faut lui donner de l'aide aussi.
Là. Tu vois, là, on aura dans quelques instants, un petit peu plus tard, là, Alex Belzile qui sera avec nous, qui a signé un contrat à deux volets avec le Canadien. Et Belzile était avec l'équipe de réserve, était là durant les séries de la Coupe Stanley, puis durant les séries éliminatoires. Pratiquer avec les joueurs à chaque jour, entraînement de match le matin. Et savez-vous quoi? On a même l'extrait. Et il va nous en parler. Il va nous parler de Shea Weber, comment Shea Weber... Peut-être pas celui-là, parce que Shea Weber, on parle du gars, comment il est fort physiquement puis qu'il n'a pas montré à personne comment il n'a pas montré à personne qu'il avait mal. Mais il a parlé de Carey Price. Il a parlé de Carey Price. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le cas de Carey Price? C'est lui qui m'a impressionné le plus. C'est lui le leader de cette équipe-là. par son calme, par la façon dont il était, c'est lui qui m'a impressionné le plus. Fait que quand tu parles de ça, c'est clair que le grand leader de l'équipe s'appelle Carey Price.
Ah ben oui, c'est certain. Puis c'est lui qui a permis aux Canadiens d'éliminer les Maple Leafs de Toronto. T'sais, c'est quand même assez remarquable ce que le Canadien a fait. Là, que tu perds la série 3-1 contre les Maple Leafs de Toronto, tu n'es pas supposé gagner cette série-là. Mais Price a dit, ben moi, ça me tente de la gagner, puis je vais continuer à me battre puis entraîner tout le monde dans son sillon. Alors, il demeure encore le joueur clé de l'équipe. Puis bon, alors on verra. Maintenant, je reviens à ce que tu disais là au début quand on a commencé à parler de Weber. J'aime beaucoup ta proposition. Tu dis, bon, ça ouvre des possibilités aussi, tu sais, s'il revient pas. Puis c'est vrai, t'as raison. Maintenant, est-ce que Marc Bergevin est prêt à saisir cette carte-là? Il va falloir qu'il se retourne de bord assez vite. Remarquez peut-être qu'il sait depuis un certain temps là, que Weber, c'est pas sûr pour l'an prochain. Mais quand on connaît le lien émotif là, qui unit Bergevin à Weber, tu dis, coudonc, il le voit très, très gros. Là, et compte tenu des succès du Canadien dans les dernières années ou des difficultés du Canadien dans les dernières années, il le voit trop gros, à mon avis, mais il le voit très gros. Alors, est-ce qu'il va être capable rapidement de se revirer de bord? Parce que, tu sais, Bergevin, tout le monde le vend cette année, puis bravo, il a réussi, il a fait des gestes qui ont permis aux Canadiens de se rendre très loin grâce, surtout là, aux performances de Price. Mais Bergevin, s'il y a une caractéristique, c'est que ses étés, ses entre-saisons ne sont pas égales au niveau du rendement. Il y a des entre-saisons où il a été très performant, puis il y a des entre-saisons où il a presque pas bougé, puis le Canadien en a pâti la saison suivante.
Là, il a tellement pas le choix. Il va falloir qu'il bouge. Parce
mais quel Bergevin on aura, là? C'est un panier à surprise, un petit peu, là. Est-ce que tu as le Bergevin de l'an dernier ou tu as le Bergevin des deux, trois années précédentes où il s'est pas passé grand-chose?
Qui doit combler 24 minutes de temps de jeu contre les meilleurs trios de la Ligue nationale. C'est ça le défi de Marc Bergevin. Ouais. Il est là. Écoute, en terminant, Philippe, je vais résumer là, tout ce qui nous restait à jaser ensemble, puis il faut qu'on fasse ça assez rapidement.
Ouais.
Les Blue Jays de Toronto ont l'autorisation pour jouer le 30 juillet. Le CF Montréal va jouer demain. Il jouait pas. La santé publique, on ne savait pas. Tennis Canada pour l'Omnium, Banque nationale. On se croise les doigts pour avoir 5000 personnes. La situation sanitaire avec la COVID pour les événements sportifs, comment tu la vois présentement? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction ou il y a encore des points d'interrogation?
Ben, on s'en va clairement dans la bonne direction. Là, il y a deux mois, trois mois, on n'aurait jamais parlé du CF Montréal au Stade Saputo, des Blue Jays non plus. Tu sais, aujourd'hui, la nouvelle qui tombe, c'est assez important aussi. Là. Les Blue Jays, le 30 juillet, vont pouvoir jouer au Rogers Center pour la première fois depuis, on se souvient même plus quand. Remarque, par exemple, on ne sait pas encore combien de spectateurs vont être admis au Rogers Center pour l'instant. Ça demeure, j'imagine, qu'on va préciser là, dans les prochains jours. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Puis je pense que Eugène Lapierre avec le tournoi, la Coupe Banque nationale est content aussi parce qu'on parle de 5000 spectateurs. Alors, ça s'en va dans la bonne direction. Il y a deux facteurs là, qu'il faut distinguer. D'abord, c'est la santé publique du Québec, tu le mentionnes, qui prend les décisions. Est-ce qu'on autorise la tenue de ces événements-là? Mais le gouvernement fédéral a aussi une grosse part de responsabilité là, dans la décision parce que c'est le gouvernement fédéral qui gère la frontière. Est-ce qu'on permet aux gens ou non de
venir ici au Canada?
Exactement, de franchir la frontière. Alors là, hier, Justin Trudeau aurait dit, là, selon la plupart des rapports de presse, aux premiers ministres provinciaux qu'il pensait tranquillement rouvrir la frontière aux Américains pour qu'ils puissent venir au Canada, même pour des raisons non essentielles, donc en tourisme, à tous les gens qui étaient doublement vaccinés, qui ont la pleine dose de vaccin. Alors, si c'est bon pour les gens, et je dis entre guillemets, ordinaires, les touristes et tout, bien, ça va être bon pour les athlètes professionnels aussi. Alors, le seul problème que je vois là, un peu à l'heure actuelle, c'est comme le tournoi de tennis, c'est avant la mi-août. Est-ce que ça va être plus compliqué à cause de ça? Ouais. Le CF Montréal, il y a des matchs avant la mi-août, mais moi, j'ai bon espoir que si on continue de vacciner à un bon rythme et puis que les décisions vont se prendre, puis faire en sorte que peut-être à compter de la mi-août, début septembre au plus tard, on pourrait retrouver véritablement une situation qui sera peut-être pas complètement normale. Là. Je parle peut-être pas encore de 20 000 personnes au stade Saputo ou au stade Percival Molson, mais quand même quelque chose qui va commencer tranquillement à s'approcher de ça. Et ça, je pense que c'est une sacrée bonne nouvelle.
Oh, que ça fait du bien. Philippe Quentin, merci d'avoir été avec nous. Je te souhaite un bon week-end.
Merci beaucoup, Jérémy, à toi aussi.